combien toi tu sais, Seigneur, le besoin de mon âme et le besoin du cœur de tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Qui d'autre que toi, Seigneur, sait à quel point l'effort humain est vain? Qui d'autre que toi, Seigneur, sait vraiment combien l'âme humaine a besoin de son Créateur? Comment puis-je faire du bien à ton peuple ce matin, Seigneur? Oh, fais du bien à mon âme, à moi aussi. Seigneur, ces paroles-là qu'on va entendre aujourd'hui, qu'elles soient ta parole, qu'elles viennent de ta bouche, qu'elles soient dans nos cœurs, que ton esprit les applique à chacune de nos situations. Seigneur, aujourd'hui, par la prédication, appelle ton peuple de nouveau à s'engager totalement avec toi, à avoir un cœur uni et simple pour toi, puis pas d'être partagé avec plein de choses. Mon propre cœur, Seigneur, en horreur lorsque je découvre, et combien je découvre souvent, qu'il y a une partie de mon cœur qui n'est pas pour toi. Seigneur, ta parole est vivante, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants pour séparer moelle et âme, Seigneur, et os, et toute chose. Ta parole, elle est vivante, elle est la vérité. Qu'aujourd'hui, ta parole soit proclamée avec passion et simplicité pour la joie de ton peuple qui se glorifie en toi seul. Oui, appelle-toi un peuple saint, un peuple joyeux, par ton esprit, pour le Christ, pour ta gloire. Amen. Une nouvelle année vient de débuter. C'est le premier dimanche de l'année 2020. Qu'est-ce qu'on voit puis qu'est-ce qu'on entend? Une tournade. Puis quel genre de tournade? Une tornade de résolution. Des résolutions sont... Cette tournade-là est partout, autant en dehors de l'Église qu'elle est dans l'Église. Puis, personnellement, je suis favorable à ça, moi, la prise de résolution. Je crois que l'être humain est fait pour avancer avec des buts en avant de lui. Que s'il n'y a aucun but, bien, il devient comme une espèce de larve qui se transformera jamais en papillon. Moi, en tout cas, pour mon expérience, si je n'ai pas de but en avant de moi, si je n'ai pas une vision, si je n'ai pas quelque chose que je veux ou quelque chose que je veux qui arrive ou peu importe, je sais que je me mets à tourner en rond et il n'y a pas grand-chose. Ça n'ira pas très, très loin. Donc, je crois, puis je prends des résolutions même, Dieu est témoin, je vais prendre des résolutions chaque matin, je pense. C'est tout à cause que je ne les respecte pas, qu'il faut que je les reprenne chaque matin, mais je prends des résolutions assez fréquemment. Assez même, je pense que c'est littéralement chaque matin. Mais quand même, une fin d'année puis un début d'année, selon moi, c'est un moment particulièrement à propos pour regarder en arrière, autant qu'en avant, puis méditer ce qu'on considère avoir manqué dans la dernière année. Je ne parle pas manquer d'argent, des choses comme ça, je parle manquer dans notre vie, dans notre âme, dans notre caractère, dans ce qu'on devait faire, dans ce qu'on veut faire. Puis en même temps, de regarder par en avant puis dire qu'est-ce que je vais changer ou mettre en pratique ou arrêter de faire pour atteindre les buts que je me fixe. Je pense que c'est un bon moment au début d'une nouvelle année. Donc, j'entends ces temps-ci, puis moi-même, je dis souvent à ma propre âme puis aux autres, je veux davantage lire la Bible, je veux davantage prier, je veux davantage méditer la parole, je veux plus lire régulièrement des ouvrages chrétiens, je veux parler plus de Jésus, je veux donner plus d'argent, je veux m'impliquer plus dans l'Église ou dans la communauté, je veux arrêter d'élever la voix à mes enfants, je veux arrêter de faire ci, je veux passer de moins de temps dans la TV, je veux m'entrer... Quand je parle de tournade, c'est ça que je parle. Puis c'est ça en ce moment dans ma vie. Puis on voit plein de choses, mais on voit plein de bonnes choses dans cette tournade-là. Mais je me dis, la question que j'avais cette nuit, c'est si au lieu de se poser cette question-là, qu'est-ce que je veux pour 2020? Si on se poserait une autre question qui est, qu'est-ce que Dieu veut pour moi en 2020? Est-ce qu'on arriverait aux mêmes réponses, aux mêmes résolutions? Quelqu'un pourrait dire, ben oui, parce que moi, ma résolution, c'est de lire plus la Bible. Dieu veut que je lise la Bible, donc oui, c'est la même réponse. Oui puis non. C'est vrai que Dieu veut que tu lises la Bible, mais il ne veut pas que tu lises la Bible pour lire la Bible dans le but de lire la Bible comme but ultime, puis résolution ultime de lire la Bible. Dieu n'est pas intéressé à ça. De la même manière, de croire que de donner ton argent ou de ton temps à la communauté de Rouen ou à l'église locale, que d'assister régulièrement au culte ou plus régulièrement, que de lire la Bible un an, que de lire les 1500 pages de l'Institution de la religion chrétienne de Jean Calvin, ou arrêter de regarder la télévision, ça va automatiquement faire que ces choses-là, Dieu va prendre plaisir dedans. Si tu penses automatiquement que si tu prends des résolutions qui sont bonnes, que Dieu prend plaisir dedans, c'est très mal connaître Dieu. C'est très mal connaître Dieu. Jésus a dit ça. En parlant, il parlait aux pharisiens, puis il a cité Isaïe, mais en parlant aux pharisiens qui sont ceux qui donnaient leur dîme, ceux qui essayaient dans les moindres détails de respecter la loi, ces gens-là qui priaient, qui donnaient leur argent, Jésus dit ça, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est très éloigné de moi. » Donc si je prends, si par exemple, selon le verset-là, je prends la résolution, moi cette année, d'honorer davantage Dieu par ma bouche. Est-ce que automatiquement c'est quelque chose que Jésus prendrait plaisir dedans? Pas selon le verset qu'on vient de lire. Pas si notre cœur est très éloigné du Christ. Pas si notre cœur est très éloigné du Christ. L'apôtre Paul va dans le même sens que le Seigneur. À partir du chapitre 12 de l'Épître aux Romains, il y a une nouvelle section qui commence à cette épître-là, puis c'est une section pratique. Paul veut dire des choses que les chrétiens vont faire, que ce soit des attitudes d'amour, que ce soit des bonnes œuvres. Il va dire, faites ceci, priez comme ça, pensez comme ça, agissez comme ça. Il va leur dire plein de choses, mais avant de leur dire ça, il veut les exhorter à quelque chose qui est encore plus important que des bonnes œuvres, qui est encore plus qui est fondamental avant même de parler de faire des bonnes actions ou des bonnes résolutions. Il écrit en Romains 12:1, j'étais supposé de prêcher là-dessus, finalement c'est pas ça, ça a changé cette nuit, mais je veux quand même le mentionner. Nous lisons en Romains 12:1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à faire plein de bonnes œuvres. Non, pas tout de suite, ça va venir d'un verset après. Il dit avant, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs, il y a quelque chose qui est bien plus fondamental puis important que les actes extérieurs de la piété, puis que les œuvres de miséricorde, ou les œuvres d'amour, ou les bonnes œuvres. Puis c'est ça la chose la plus importante. Votre vie entière, votre âme et votre cœur sont-ils pleinement à votre Dieu? Est-ce que vous vous êtes offert à Dieu comme un sacrifice vivant, sain et agréable? Oui, Dieu demande et exige beaucoup de choses de ses enfants. On va leur demander de faire ça, de donner ci, de faire ça. On voit ça dans le Nouveau Testament, plein de commandements. Mais il désire et exige bien plus que ça. Il désire et exige l'entièreté de la personne qui lui offre les choses qu'il demande d'être offertes. Il veut pas juste que, il vient pas juste sauver des gens pour les transformer en chrétiens, puis il dit, maintenant, fais juste, moi, je veux juste avoir la louange de ta bouche, les mains, je veux que tu ailles de lui, je veux que tu fasses ça, je veux que tu pries comme ça. Ce n'est pas juste ça qu'il veut. Il veut tout ton cœur, il veut tout ton corps, il veut toute ta personne, il veut ton entièreté. Il veut que tu sois un sacrifice vivant pour lui, que tu sois, pas juste que ta vie chrétienne soit une partie le dimanche matin, une autre partie le mercredi. Des fois, tu fais que non, il veut ton entièreté. Pour lui, la vie chrétienne, c'est une vie de louange, c'est un sacrifice continuel qu'il lui a offert. Voilà ce que Dieu demande et exige de toi en ce début-là d'année. Voilà ce que Dieu demande et exige de moi en ce début-là d'année 2020. Si on poserait la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur, en 2020? Qu'est-ce que tu attends de moi? Mais la réponse fondamentale, avant de commencer à fixer un peu là, réparer une petite chose là, m'arranger un peu ici, arrêter de faire ça, avant ça, Dieu dirait, donne-moi l'entièreté de ta vie et de ton cœur. L'entièreté. Pas 90, pas 95, pas 99, 100% de ta vie, de ton corps, de ton cœur. Frère et sœur, pensons même pas une seconde à prendre la résolution de lire la Bible ou de prier chaque jour si on ne désire pas prendre avant ça la résolution de donner tout notre cœur à Dieu. Un peu la même chose que Jésus a dit, pensons pas qu'on fait nécessairement bien à cause qu'on loue Dieu et qu'on honore Dieu de toutes sortes de façons, mais que notre cœur est très éloigné de lui. Dieu ne prend pas plaisir à ce genre de religion-là. Il ne prend aucunement plaisir dans ce genre de religion-là. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Il veut ton cœur, il veut tes pensées. Le reste, c'est des accompagnements. Il veut le plat principal, il veut ta personne tout entière. Donc, c'est ça qu'on va parler. C'est pour ça que mon titre s'appelle « Un cœur entier pour Dieu ». Puis pour commencer à en parler, je vais tourner dans Exode 20. C'est là qu'on va passer la plus grande partie du message. Exode 20. Exode 20, on va lire les versets 1 à 5, mais on va surtout se concentrer sur les deux premiers ou les trois premiers versets. On lit ça dans Exode 20, Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les plus bas, dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point qu'en moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » On va prier. Ô Éternel, quelle parole profonde, quelle parole vraie qui ont traversé les époques et les siècles. Seigneur, je t'en prie, donne-nous un cœur. Que même si on entend des choses qu'on a déjà entendues aujourd'hui, Seigneur, qu'on soit touché comme de nouveau, pour se donner comme de nouveau à toi en ce début d'année-là. Amen. Au verset 3, Dieu commence à donner ce qu'on appelle les 10 commandements ou les 10 paroles, qui sont assez connues. On va regarder seulement aujourd'hui le premier, qui est à dire, lui, de ne pas avoir d'autres dieux, puisque c'est directement lié avec le sujet de savoir qui a vraiment notre cœur, ou qu'est-ce qu'il y a vraiment dans notre cœur, qui possède la totalité de notre cœur, Dieu ou des dieux. Mais avant de voir le commandement lui-même, je veux d'abord attirer votre attention sur le fait que juste avant de révéler sa volonté à Israël, au verset 3, il va dire ainsi, c'est ça ma volonté. Fais ci, fais ci, fais ci, fais pas ça, fais pas ça, fais ci, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Il va dire ça 10 fois. Mais avant de révéler ça, ses commandements, il va leur rappeler encore quelque chose qui est primordial. Il va leur rappeler quoi? Il va leur rappeler qui que lui il est, et encore plus, qui qu'il est, lui, Dieu, par rapport à eux, son peuple. Regardez au verset 2. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Voyez-vous ce que Dieu est en train de dire là, par la bouche de Moïse? En d'autres mots, il leur rappelle, moi je vois 3 choses. Il leur rappelle, premièrement, qu'il est l'Éternel, c'est-à-dire le Créateur intemporel et le Seigneur de toutes choses. Il est l'Éternel, Yahweh. 2, pas juste qu'il est l'Éternel, le Seigneur de toutes choses, mais qu'il est leur Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Et 3, pas juste qu'il est l'Éternel, Créateur de toutes choses, pas juste qu'il est leur Dieu, mais qu'il est aussi leur Sauveur. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Pourquoi pensez-vous que Dieu rappelle ces 3 vérités-là avant de commander de ne pas avoir d'idole? Parce que ce qu'il va dire dans notre prochain verset, de ne pas avoir d'autres dieux, juste un Dieu, pas d'autre. Pourquoi? Puis quand je méditais là-dessus cette nuit, c'est ça mon best shot de pourquoi je pense que Dieu donne ça, ces vérités-là avant. La première, c'est pour leur rappeler que ce peuple-là, auquel il va donner des commandements, c'est sa possession à lui. Ils lui appartiennent à lui. Il ne les emprunte pas. Ce peuple-là appartient à l'Éternel. Vous savez, fort probablement que beaucoup des chartes de droits et libertés, des droits et des lois dans beaucoup de pays du monde ont été basées sur la loi de Dieu. Mais plus que le temps avance, plus qu'on se rend compte, plus que les gens éliminent ces lois-là. Par exemple, juste pour en nommer un, l'avortement, qui était avant interdit, qui était un crime, parce que la Bible dit que c'est un crime. On avait mis dans nos chartes et dans nos lois que c'était un crime, mais maintenant, on l'a enlevé. Puis pourquoi on l'a enlevé? Quelqu'un pourrait dire, mais parce que les gens rejettent la loi de Dieu maintenant. C'est vrai. Mais ma question, moi, je vais aller plus loin, c'est pourquoi les gens rejettent la loi de Dieu maintenant? Qui les force à rejeter tout ce que la loi de Dieu dit, finalement. Tout simplement parce qu'ils ont rejeté la vérité que Dieu rappelle au verset 2, Israël. C'est quoi cette vérité-là? Je suis l'Éternel, ton Dieu. Puis parce qu'ils rejettent « Je suis l'Éternel, ton Dieu », ils rejettent sa loi. L'humain oublie qu'il est une simple créature, puis que le Dieu qui existe éternellement, puis qui n'a besoin de personne, est son Créateur, et son Roi, et son Seigneur. Il n'y a personne qui existait avant que Dieu décide de le créer. Donc, de la première seconde d'une vie jusqu'à la dernière, peu importe comment ça dure, ce n'est que pure grâce, parce que cette personne-là ne vivait pas avant que Dieu la crée. Et Dieu soutient son respire à chaque seconde. Chaque vie de chaque être humain, chaque milliseconde est pure grâce du Créateur, parce qu'il ne doit rien à personne. L'homme appartient donc à l'Éternel. L'homme en général, pas juste son peuple, l'homme, l'humanité, la terre, l'univers, les anges appartiennent à Dieu, c'est sa possession. Mais l'être humain marche dans le cours de la vie, sort son torse, lève la tête, il regarde sa personne, il regarde ce qu'il possède, il regarde dans l'entour de lui, puis il dit, ça c'est à moi, ça m'appartient. C'est moi le boss, c'est moi qui dirige. Je suis mon propre chef. Je suis le chef de ma propre vie. Puis il croit qu'il peut faire ce qui semble bon à ses propres yeux, puis décider ce qui est bien, puis décider ce qui est mal, selon ses propres standards, selon ses propres expériences. Sans se rendre compte qu'il va devoir rendre des comptes. Ou en pensant qu'il ne rendra pas de compte, parce qu'il est le chef de sa propre vie. Mais est-ce que Dieu reste indifférent à cette attitude-là de l'homme? Non. Je m'imagine facilement Dieu dire, « Comment oses-tu te bomber le torse devant ton Créateur? Est-ce que c'est toi qui t'es fait grandir dans le ventre de ta maman? Est-ce que c'est toi qui fais battre ton cœur à chaque seconde? Est-ce que c'est toi qui t'as donné un cerveau pour réfléchir? Toutes ces choses-là sont de moi. Comment oses-tu te considérer le propre chef de ta vie ou ton propre petit Dieu? » Écoutez ce que Dieu a déjà répondu à un roi qui, lui, se croyait comme Dieu. Un roi dans l'Ancien Testament. On lit ça dans Ézéchiel 28. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu et je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es un homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. » Et là, Dieu, il devient sarcastique. « Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu « Je suis Dieu » Tu seras un homme et non Dieu sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel. » Voyez-vous l'arrogance de l'être humain? Mais la réalité, même si l'homme est arrogant, la même réalité demeure. Dieu est le seul Créateur et le seul Seigneur, et tout lui appartient. Et tout va toujours lui appartenir. J'ai cette histoire-là que j'ai déjà entendue, que je trouve drôle, mais qui montre un point assez triste, en fait. C'est l'histoire d'un scientifique qui un jour rencontre Dieu, puis qui ose dire à Dieu, « Regarde, on n'a pas besoin de toi. Tout ce que tu fais, on est capable de le faire avec la science et la technologie. » Dieu relève le défi, dit « Ok, d'abord, essaye de créer un être humain. » Le scientifique part à rire, « Pas de problème, prends un bocal, s'en va chercher un pot de poussière, s'en va dans son laboratoire pour créer des cellules puis tout ça. » Dieu fait « Ah, attends, qu'est-ce qu'il y a? C'est ma poussière. Crée ta propre poussière, puis tu iras faire tes expériences après. » C'est drôle comme histoire, mais ça montre un point, que tout appartient à Dieu. L'homme peut faire des choses incroyables, parce que Dieu a fait des choses incroyables. Tout appartient vraiment à Dieu. Alors, lorsque le Seigneur dit à Israël, « Je suis l'Éternel, ton Dieu. » Avant de commander de ne pas avoir d'autre Dieu, je crois vraiment qu'il dit quelque chose comme ça. Je m'imagine l'Éternel parler comme ça. « Rappelle-toi, mon peuple, que c'est moi qui suis ton Créateur. C'est moi qui t'ai désiré dans ma grâce. Souviens-toi que je suis ton seul Seigneur et donc le seul qui te dit comment penser et comment vivre. Ne va donc pas vers ces fausses idoles de néant qui ne t'ont pas et ne peuvent pas te faire vivre ou te faire du bien ou du mal. C'est moi, ton Dieu. » Dieu leur rappelle ça par ses paroles avant de leur donner des commandements. Mais comme j'ai dit, Dieu ne leur rappelle pas simplement qu'il est leur Seigneur et leur Créateur. Il rappelle aussi qu'il est leur Sauveur. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Avant que le peuple d'Israël soit puissamment sauvé de l'esclavage en Égypte. Vous savez, il était comme n'importe quel humain. Là, avant même d'être sauvé, comme je viens de dire, Dieu le possédait. C'était à Dieu, puis comme tous les autres êtres humains, même s'il était dans la misère, par le seul fait d'exister, de respirer, c'était une grâce de Dieu. Mais cette grâce-là, et cette appartenance-là à Dieu, par le fait qu'il était des créatures, est allée à un autre niveau, à tout un autre niveau. Pourquoi? Parce qu'ils ont goûté une grâce que les autres peuples d'alentour n'ont pas goûté à l'époque, que Pharaon et que l'Égypte n'ont pas goûté, cette grâce-là d'avoir été sauvé par Dieu pour devenir le peuple de Dieu. Non seulement sa possession comme le reste des êtres humains, mais sont devenus la possession particulière de Dieu, la possession précieuse de Dieu. Dieu possède tout le monde et il y a son peuple. Il y a son peuple. Puis, ô Église de Jésus-Christ, oublions pas ça, nous aussi. Oublions pas ça, que nous aussi, c'est la même chose. Nous aussi, Oui, tout le monde appartient à Dieu, mais nous, on lui appartient d'une manière bien plus spéciale, bien plus unique, bien plus gracieuse, même plus gracieuse puis plus glorieuse que le peuple d'Israël à l'époque où Moïse écrivait. On est les enfants de Dieu, les enfants d'adoption par Jésus-Christ, nous dit la parole. Pas juste serviteur, pas juste esclave, enfant de Dieu qu'on est appelé. Le Dieu qui va dire d'avoir aucune idole dans nos vies, puis c'est le message aujourd'hui, Dieu ne veut pas qu'on ait des idoles, ne veut pas qu'on ait d'autres dieux. C'est le Dieu, là. C'est pas un Dieu lointain qui nous commande du fond de l'univers froidement puis dit « fais ceci ou fais cela ». Frères et sœurs, c'est le Dieu qui nous a sauvés de l'enfer. C'est le Dieu qui nous a sauvés de l'esclavage du péché. C'est le Dieu qui nous a sauvés d'une vie puis d'une éternité vaine dans la honte. Ça, c'est de la grâce à un autre niveau. Si d'exister, c'est une grâce de Dieu, si d'être le peuple d'Israël dans l'Ancienne Alliance, c'est une grâce encore supérieure, combien est grande la grâce qui est d'appartenir à Dieu par Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance? Nous tous, frères et sœurs, on était tous errants comme des brebis sans Dieu dans le monde, sans espérance, dans le noir total. On était pas le peuple de Dieu, on était condamnés à mourir dans nos péchés et à subir la juste et combien grande et terrifiante colère de Dieu que nos péchés attirent sur nous. C'était ça notre destinée, avant que Dieu nous appelle, avant que Dieu nous sauve. Mais, maintenant on est quoi? Mais maintenant on est le peuple de Dieu. On n'est plus l'ennemi de Dieu, on est le peuple de Dieu. Par la vie du Seigneur Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, par sa résurrection d'entre les morts, on a le pardon des péchés par le simple fait de quoi? Parce que Christ a tout fait, nous, on se détourne de nos idoles et on fait confiance dans ce merveilleux Sauveur-là qui se présente à nous. Comme seule espérance et ancre solide de notre âme, on dit « Oui, c'est lui mon Sauveur et je lui fais confiance » par ce simple acte-là de confiance. On est libéré de la condamnation de nos péchés. Je peux me lever un matin et puis pas sentir pesant la honte de tout ce que j'ai fait puis de tout ce que je vais faire. Je peux me lever le matin et puis dire « Dieu m'est disponible, je ne suis pas tout seul, je peux respirer, je peux vivre, je peux goûter à quelque chose de bien plus excellent que ce monde-là m'a toujours proposé. » On a aussi quoi? L'Esprit Saint qui crie quoi? Abba, Père. Abba, c'est l'araméen qui veut dire « Père d'amour ». On est enfant de Dieu, on est héritier de Dieu, on est co-héritier de Christ. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? On lit ça, mais on n'est pas juste esclave, on n'est pas juste enfant. Ça dit qu'on est héritier de Dieu, co-héritier de Christ, c'est-à-dire un héritage égal à celle de Jésus-Christ, le Seigneur qui est assis sur le trône de Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui est à Christ, autant la joie que les possessions que le règne, est à nous. C'est pour ça qu'on est appelé, qu'on va régner avec lui, qu'on va être assis avec lui, qu'on va posséder la joie éternelle avec lui, qu'on va voir Dieu. Tout ce que Christ... On est appelé comme ça, frères et sœurs. C'est ça que Dieu nous donne. Puis il nous donne d'avoir l'espérance certaine de savourer la gloire de Dieu pour l'éternité. Par la mort du Fils unique, Dieu nous a acquis. Puis je le répète, ça, c'est de la grâce. On est la possession de Dieu d'une manière bien unique. Nous sommes à lui par Jésus-Christ. Notre âme lui appartient, notre cœur lui appartient, notre corps lui appartient. Ton corps n'est pas à toi, tes pieds ne sont pas à toi, tes yeux ne sont pas à toi. Quand il s'est dit dans Romains 12 d'offrir ton corps comme un sacrifice vivant, tu ne donnes rien à Dieu qui ne t'a pas donné, c'est à lui déjà. Il te demande juste d'utiliser ce qu'il te donne pour sa gloire et sa louange. Mais tout est à lui. Regardez, dans 1 Corinthiens 6, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. » Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. On n'est pas juste... Dieu ne nous possède pas juste à cause de la création maintenant. Il nous possède d'une manière bien spéciale à cause de la rédemption, à cause du salut qu'on a. Christ est mort pour nous, puis il est mort pour que nous soyons à lui, qu'on lui appartienne à lui à 100%. Puis je me dis, frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas assez? Est-ce que ce n'est pas assez, tout ce qu'on vient de lire, tout ce qu'on vient de voir à propos de Jésus? Est-ce que ce n'est pas assez pour nous donner toutes les raisons du monde de prendre des résolutions puis de nous motiver? Est-ce que ce n'est pas assez pour qu'on lui donne vraiment tout notre cœur, puis toute notre force, puis toute notre pensée, puis tout? Est-ce que ce n'est pas assez? C'est pour ça que je méprise autant ce que je vois souvent dans le monde évangélique aujourd'hui. Parce que tu as des églises entières, puis des mouvements entiers qui mettent tant d'efforts dans tous ces spectacles-là, ces styles de vêtements, ces activités, cette musique branchée-là, dans le seul but de quoi? D'attirer des gens à l'église. OK? Comme si Jésus lui-même n'est pas assez suffisant puis satisfaisant pour attirer les gens. Il faut rajouter quelque chose. Il faut de la bonne musique parce que les gens ne viendront pas à Christ. Si tu ne trouves pas Christ assez suffisant pour le suivre, je ne peux rien faire pour toi. Et malheur à moi le jour où je vais commencer à vouloir mettre un peu de musique là, un peu de vêtements cool là, un peu d'activité là, juste dans le but de t'attirer à l'église, de t'attirer dans notre groupe. Non, jamais. Malheur à moi le jour où je fais ça. Qu'est-ce que l'âme gagne? Si on réussit à gagner une âme dans l'église par des moyens charnels, mais que cette âme-là, elle ne désire pas le Christ, qu'est-ce qu'elle a vraiment de plus, cette âme-là? Elle n'a rien de plus, parce qu'elle n'a pas Christ comme son trésor. Et maintenant, pensez-y, frères et sœurs, pensez-y. Est-ce qu'on veut vraiment d'autres dieux dans notre cœur? Est-ce qu'on en veut vraiment d'autres? Est-ce qu'on veut vraiment avoir un cœur partagé en Dieu puis quoi que ce soit d'autre? Le seul vrai Dieu, comme on vient de le voir, a fait de nous sa possession toute particulière. Il nous prend, c'est écrit dans Isaïe, comme une couronne de gloire sur lui, comme un bijou précieux. Il nous garde comme la prunelle de ses yeux. L'appartenance à Dieu, la grâce de Dieu. Voyez-vous pourquoi maintenant Dieu rappelle ça avant de donner ses commandements? Il rappelle ça avant de donner ses commandements. Bien sûr que je ne veux pas d'autre Dieu que mon Dieu. Puis que mon âme est triste quand je découvre encore dans mon cœur que je tiens quelque chose, que je ne le donne pas à Dieu, que je ne suis pas satisfait en Dieu là-dedans, que je veux le garder pour moi, que je n'y donne pas cette partie-là de ma vie ou cette partie-là de mon corps. Je veux lui seul. Présentez-moi personne d'autre que lui. Je ne veux pas d'autre Dieu que lui. Et je sais que vous n'en voulez pas d'autre que lui. Alors regardez maintenant le commandement de Dieu, le premier commandement au verset 3. C'est écrit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. D'abord, le mot « Dieu ». Nous savons que ça inclut certainement les dieux faits de main d'homme, comme les statuettes de l'époque ou les bouddhas d'aujourd'hui, ou les statues d'anges, ou les statues hindous, peu importe. Mais on sait aussi que le mot « Dieu », dans ce contexte-là, veut dire plus que juste des statuettes. En réalité, on peut simplement dire que tout ce qui prend la place, que le seul vrai Dieu doit avoir dans nos cœurs et dans nos vies, est une idole. Ce sont des idoles, donc des faux dieux, des dieux qui prennent la place de Dieu. Et voici vraiment un test pour déterminer si quelque chose est une idole dans nos cœurs. Faites ce test-là. Je le fais. Je l'ai fait cette nuit. Je l'ai fait toute la semaine. Si nous croyons dans nos cœurs que nous ne pouvons pas être heureux sans une certaine chose, sans une certaine personne, ou sans une certaine situation ou circonstance, tu peux être sûr que c'est une idole qu'on adore. Je vais répéter. Si on croit dans nos cœurs, ou on agit comme qui montre que c'est dans notre cœur, qu'on ne peut pas être heureux sans une certaine chose, une certaine personne ou une certaine situation, ça montre que cette chose-là, ou cette personne-là, ou cette circonstance-là, ou cette situation-là, est une idole qu'on est en train d'adorer. Ça peut être absolument n'importe quoi. N'importe quoi. Sécurité, bien matériel, connaissance, santé, notre propre personne ou d'autres personnes. Ça peut être le contrôle, la richesse, le confort, un accomplissement, un rêve, l'opinion des autres, l'apparence physique, une vie sans problème, la nourriture. Ça peut absolument n'importe quoi, tu le nommes. Puis comme l'a si bien dit Jean Calvin, le cœur de l'homme est une usine d'idoles. Elle fabrique des idoles comme ça. La plus performante des usines d'idoles, c'est le cœur de l'homme. À tel point que ce qui est bon puis ce qui vient de Dieu, ses plus grands cadeaux, notre cœur est capable de le prendre assez facilement puis de le tourner en une idole qui prend la place de Dieu, du Dieu qui l'a donné dans notre cœur. Pensez aux maris et femmes, pensez à nos enfants qui sont des fois les plus grands cadeaux que Dieu nous donne. Viennent souvent la chose qui enlève la place de Dieu dans nos cœurs. Encore une fois, au moment où on pense « J'ai besoin de cette chose-là où je ne pourrais pas être pleinement heureux », nous sommes dans l'idolâtrie, puis notre cœur est partagé entre Dieu puis une autre chose. Dans le fond, quand on tient ce genre de pensée-là ou ce genre de parole-là, c'est comme si on disait, c'est comme si nous disions « Dieu n'est pas suffisant pour satisfaire mon âme, j'ai besoin de cette chose-là aussi ». Est-ce que vous voyez pourquoi Dieu, dans la Bible, appelle l'idolâtrie une abomination? Parce que quand on idolâtre quelque chose, quand notre cœur est partagé avec quelque chose, ça dit quoi? Que Dieu n'est pas assez. Que Dieu n'est pas assez. Que la fontaine de vie n'est pas assez. Que l'être le plus joyeux et satisfaisant de l'univers n'est pas assez pour moi. Frères et sœurs, réfléchissons encore attentivement. Puis avouons-le. Lequel de nos idoles a tellement satisfait notre âme qu'on est prêt à vivre une vie de sacrifice puis d'amour pour les autres, puis même de mourir, puis tout ça avec une joie qui surpasse toutes circonstances? Lequel des choses à lesquelles on tient nous a amené à être comme ça? Aucune. Pourquoi? Parce que ces choses-là qui prennent la place, trop de place dans notre cœur puis nos pensées, c'est des choses de néant, c'est des choses passagères comparées à notre Dieu créateur, à notre Dieu sauveur. Il y a juste Dieu qui peut nous donner un bonheur durable au point où que ça coule comme un fleuve d'eau vie qui peut nous emmener à même mourir dans la joie, puis à même mourir pour les autres. Mais des idoles ne vont pas nous porter à faire ça. Nous achetons un nouveau char, un nouvel ordinateur, une nouvelle maison, on recherche une promotion, on fait un nouveau projet, peu importe, on n'arrête pas d'y penser jusqu'au point où qu'on en parle à tout le monde, puis ces choses-là prennent la place qui revient au Seigneur dans notre cœur. Qu'est-ce qui arrive après? Une semaine après que tu as acheté l'affaire que tu as désirée pendant des mois, une semaine est passée, toute l'excitation est passée, comment tu te retrouves? Le cœur vide. Le cœur vide, vous savez de quoi je parle. Peu importe c'est quoi le projet, peu importe c'est à quoi vous regardez, ça peut être la meilleure chose du monde. Après combien de temps ça va vous avoir le cœur vide? Vide, vide, vide. Écoutez ce que le prophète Samuel dit. 1 Samuel 12. Samuel dit au peuple, « N'ayez point de crainte, vous avez fait tout ce mal. » Vous avez péché, vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant qui n'apportent ni profit, ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. Ce passage est extraordinaire parce que le peuple a péché contre Dieu. Il a péché gravement contre Dieu. Mais au lieu, Samuel, de dire, « Ok, tu as péché contre Dieu, va-t'en Dieu », il l'encourage à rester accroché à son Dieu parce que Samuel a une crainte et cette crainte-là, c'est que si ce peuple-là reste trop dans la honte et la culpabilité, au point de se détourner du Dieu vivant, il sait qu'il va se tourner vers des idoles qui vont finalement courir à leur plus grande perte. Donc, il les encourage et dit, « Ok, vous avez fait ce mal-là, mais ne faites pas l'erreur d'en plus continuer puis de vous détourner de Dieu. Accrochez-vous de tout votre cœur à l'Éternel, sinon quoi? Vous allez aller après des idoles de néant. » Des idoles de néant. Parce que c'est toujours une cause, c'est toujours la cause à effet de ce qui se passe dans nos vies. Si il y a quelque chose qui prend la place de Dieu dans notre cœur, c'est toujours à cause qu'on n'a pas été assez en communion avec Dieu. Parce que si on a été en communion avec Dieu au point qu'il prend tout notre cœur, il n'y a plus de place pour rien d'autre. Il n'y a plus de place pour rien d'autre. Pourquoi pas avoir d'autres dieux? Parce qu'il y en a un seul, c'est l'Éternel des armées. Puis lui seul peut autant sauver que détruire, rendre malade que guérir, angoisser nos âmes comme les satisfaire pleinement. C'est lui notre Dieu et il y en a un seul. On va continuer dans notre passage d'Exode. Il est écrit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et remarquez qu'il n'est pas écrit, « Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant vos faces, mais devant ma face. » Puis pour moi, c'est toute une différence. Parce que s'il ne faudrait juste pas avoir d'autre Dieu devant nos faces, ça veut dire qu'on pourrait en avoir à côté de nous puis en arrière de nous. Ce que je veux dire, je m'explique, c'est que on pourrait faire, comme on a souvent tendance à le faire, « Dieu est le premier dans ma vie, avant de ma face, mais après lui, c'est moi, puis après lui, c'est ma famille, puis après lui, c'est le sport. » Mais Dieu ne ordonne pas ça, il dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Puis puisque sa face, c'est une façon de parler de sa présence omniprésente, ça veut simplement dire que tu ne vas pas avoir d'autre Dieu du tout. Voyez-vous, Dieu ne veut pas simplement être le premier dans nos vies. Comme si la plus grande partie de notre cœur devait lui être réservée, mais que les autres choses pourraient être remplies de d'autres choses. Ces autres choses-là, c'est des idoles. Dieu ne veut pas être le premier. Il veut être le premier. Il veut être le deuxième. Il veut être le troisième. Il veut être le quatrième, cinquième, sixième. Il va avoir tout ton cœur. On ne peut rien mettre devant ou à côté ou en arrière de la face de Dieu. Dieu veut que tout notre cœur soit pour lui seul. Ça veut dire que toutes les autres choses dans nos vies ne doivent pas prendre une partie de nos cœurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aimer d'autres choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver du plaisir en d'autres choses, dans nos enfants, dans nos épouses. Mais ces choses-là ne vont pas prendre une partie de notre cœur. Ils vont trouver leur place dans un cœur déjà plein de Dieu, déjà rempli de Dieu. C'est la seule façon d'éviter que ces choses-là prennent réellement une part de notre cœur et enlèvent une place à Dieu. C'est que notre cœur soit rempli à 100% de Dieu, qu'il laisse Puis naturellement, les autres choses vont graviter alentour, puis vont trouver leur expression dans ce cœur-là rempli de Dieu. J'ai un autre passage que je vais aller, mais juste avant de tourner, il y a une parole au verset 5 que j'aimerais faire une remarque dessus. C'est écrit, « Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Un Dieu jaloux. Il y a beaucoup à dire sur la jalousie de Dieu, trop pour le reste du message. Mais il est important que je mentionne un aspect qui est lié à l'idolâtrie. En fait, c'est le contexte dans lequel Dieu le nomme, dans Exode 20. D'abord, la jalousie de Dieu, il faut comprendre qu'elle est extrêmement différente de la jalousie des hommes, qui sont jaloux parce qu'ils ne possèdent pas quelque chose que quelqu'un d'autre a et qu'eux veulent. Ce n'est pas ça. La nature de la jalousie de Dieu vient, oui, du fait qu'il est le seul Dieu saint qui possède toutes choses. Tout est à lui. Fait qu'il est jaloux, il veut garder les choses qui sont à lui dans ce sens-là, mais elle est aussi liée à son amour pour nous. La jalousie de Dieu est liée à son amour pour nous. Aujourd'hui, je sais, le monde croit que le vrai amour, c'est d'accepter tout ce que quelqu'un croit, tout ce que quelqu'un fait, puis si tu dis quelque chose contre ça, tu ne l'aimes pas, tu es intolérant. Si tu ne laisses pas quelqu'un penser comme qu'il pense, ou si tu oses dire à quelqu'un, c'est peut-être n'importe quoi ce que tu penses, tu es intolérant et tu manques d'amour. Ça, c'est la pensée d'aujourd'hui. Pour moi, pour le dire simplement, c'est stupide de penser comme ça. Je vais vous le montrer avec un exemple. Je vous l'ai déjà dit, puis je vous le redis. Imaginez que mon Noam, 5 ans et demi, croit qu'il est Superman. Puis qu'il croit tellement qu'il est Superman qu'il peut arrêter un 45 pieds avec du bois dessus, qui pèse des milliers de livres, avec sa main, avec ses pouvoirs. Donc là, puis en plus, l'autre fois, c'est quasiment arrivé, mais bon, ça c'est une autre histoire. Caro n'est pas là. Super. Je sais, je le dirais. Mais imaginez, il est là, puis moi, je suis... Mais là, pas chez nous, mettons sur le bord d'autoroute. Puis là, je regarde mon fils. Il est là, puis il attend le 45 pieds qui arrive, là, à 120 à l'heure. Puis là, il y a quelqu'un qui est à côté de moi, il dit, « Qu'est-ce que tu fais? » Je dis, « Ah, je regarde mon fils, je l'aime tellement. » Puis il me dit, « Ben, qu'est-ce qu'il fait là, ton fils? » Oh, tu savais pas, mon fils, il se croit vraiment pour Superman. Puis tu vois le 45 pieds qui arrive là-bas à 120? Il dit, il pense qu'il peut l'arrêter avec ses pouvoirs. Je l'aime tellement, mon fils. Il ferait. Ou est-ce que vous pensiez qu'il ferait. Hey, t'es vraiment un papa qui aime son fils, de le laisser croire comme ça qu'il est Superman. T'es vraiment bon. Non, il ferait pas ça. Il me tasserait ou il me frapperait. Il me dit, qu'est-ce que tu penses? De laisser. T'aimes pas ton fils? De le laisser agir comme ça? Il va se faire frapper. Il va mourir, ton fils. Va le chercher. C'est comme ça qu'il penserait. C'est comme ça qu'il me parlerait. Voyez-vous, Dieu, il sait qui il est. Il sait qu'il est Dieu, le seul Dieu. Il sait qu'on ne va jamais prospérer, on ne va jamais se réjouir dans notre âme si on ne reconnaît pas qui lui il est, si on n'obéit pas à ses commandements, puis si on ne veut pas être ou vivre une vie en accord avec sa volonté, puis en plus, s'il n'est pas notre ultime trésor. Dieu sait que s'il n'est pas notre ultime trésor, on court à notre perte. Et si Dieu nous aime jalousement, puis c'est le cas, et si Dieu s'inquiète de notre bien-être, et c'est le cas, il va nous arrêter dans notre folie, comme j'aurais dû arrêter Noam devant le 45 pieds. Ben, je l'ai arrêté, mais dans mon histoire, que je devrais l'arrêter devant le 45 pieds. Alors, quand Dieu nous commande de ne pas avoir d'idole, c'est parce qu'il nous aime. Il sait que les idoles sont des tueurs de joie et de paix. Elles sont vaines et elles ne peuvent rien apporter de vrai. Le péché nous fait croire qu'ils vont nous apporter quelque chose, mais en réalité, ils vont nous détruire à petit feu ou à feu rapide. Puis, c'est pas étonnant. Des fois, est-ce que vous ne demandez pas? Moi, j'ai eu déjà ce questionnement-là. Dieu, pourquoi tu ne me libères pas de cette facette-là de mon caractère ou de ce péché-là qui traîne dans ma vie que j'essaie de me débarrasser? Pourquoi tu ne m'en libères pas? Tu peux m'en libérer comme ça. Dieu, des fois, ne te libère pas d'un péché précis parce qu'il cherche à avoir tout ton cœur. Puis il sait que s'il te donne la victoire sur un péché comme ça, tu ne verras pas le reste qui n'est pas à Dieu dans ta vie. Puis tu vas dire, je suis correct, j'ai dominé mon péché, ou Dieu m'a aidé, je peux maintenant marcher. Non, Dieu, il veut tout ton cœur, puis il peut permettre des difficultés, ou que tu sois soumis à une vanité pour un temps, pour que tu réalises que ton cœur au complet n'est pas pour Dieu à 100%. Il ne faut pas s'étonner si des fois, on a de la misère à tuer, on se bat contre un péché, on se bat contre une facette de notre vie, mais dans le fond, on ne veut pas vraiment s'offrir en sacrifice vivant à Dieu tous les jours de notre vie. C'est plus les conséquences de notre péché qu'on aimerait voir partir. Ce qui m'amène à notre deuxième passage, Marc 12, je vous fais tourner. Marc 12, 28, 30. Marc 12, 28, 30. On va commencer à lire. « Alors l'un des scribes, qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements? » Jésus répondit, « Le premier, c'est, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est un seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jésus dit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. » Pour les Hébreux, contrairement à notre culture occidentale du 21e siècle, le cœur représente beaucoup plus que les émotions. Pour nous, le cœur, ici, ça représente essentiellement les émotions, les sentiments. Mais pas pour les Hébreux. En fait, pour eux, dans la Bible, le cœur, c'est notre nous. C'est nous au plus profond. C'est notre vrai nous. C'est le centre de contrôle de notre vie. C'est la chose qui contrôle notre volonté, notre intelligence et oui, nos émotions, mais c'est bien plus que juste nos émotions. Puis ce que Jésus dit, c'est qu'avec ce centre-là de contrôle de qui qu'on est vraiment, avec tout ce que nous sommes, nous devons aimer Dieu. Avec notre entièreté, on doit aimer Dieu. Si on aime Dieu de tout notre cœur, bien, on va l'aimer avec tout le reste. Vous comprenez? Si Dieu possède ton cœur, il possède aussi ton corps, parce que ton cœur, c'est ce qui va t'amener à avoir telle volonté et à avoir tel désir. Puis là, souvent, j'entends, vous savez, on juge pas un livre par son couvert, hein, on dit ça, par la couverture. Puis souvent, les chrétiens vont dire ça, vont dire, regarde, je sais, là, toi, tu regardes dans ma vie, puis tu juges telle chose, là, mais tu vois pas ce que j'ai en dedans pour Dieu. La Bible va dans un tout autre sens. En fait, on voit ce qu'il y a en dedans à cause de ce qu'on voit en dehors. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur en dedans, si Christ est ton trésor, mais qu'avec tes yeux, avec mes yeux, je vois dans tes yeux que tu regardes la pornographie, je sais, et où ton cœur? C'est la fenêtre qui m'amène directement vers ton cœur. Ne dis pas, oh, je sais, je fais telle action, puis telle action, mais dans le fond, j'aime vraiment Jésus-Christ. C'est un mensonge, tu te leurres toi-même, c'est pas vrai ça. Comment la Bible présente l'humain dans son total, c'est que l'humain va toujours suivre ce que veut son cœur, et son cœur va l'emmener à bouger ses doigts d'une certaine façon, à faire quelque chose avec ses yeux différents, à marcher d'une certaine façon, dans le sens, pas une démarche, mais de marcher avec Dieu au lieu de marcher avec le monde. C'est pour ça que dans notre verset de Romains 12, 1, tantôt, Paul disait « Offrez votre corps comme un sacrifice vivant. » Il ne veut pas dire juste votre corps puis pas votre cœur. Il va voir un peu plus loin qu'il faut avoir notre pensée complètement renouvelée. Donc, il parle de toute la personne, sauf que il va être sûr que les Romains sachent que si Dieu possède vraiment leur cœur, ça va se manifester dans leur corps. Si Dieu les a vraiment changés, au lieu d'utiliser leurs mains, leurs pieds, leurs bouches comme des instruments d'injustice pour créer l'iniquité, ils vont s'en servir pour honorer Dieu. Leur bouche va servir pour honorer Dieu, bénir les autres, faire du bien. Leurs mains pour servir les autres. Si Dieu possède ton corps, il possède ton cœur, il possède aussi ton corps. Comme je l'ai dit, Dieu n'est pas intéressé par un cœur partagé, on l'a vu. Dieu n'est pas intéressé par un cœur partagé comme il n'est pas glorifié par un cœur qui donne 75% mais qui garde 25% pour le travail ou les jeux vidéo, ou le sport, ou un époux, etc. Et comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que le travail, c'est pas bien, que c'est mal. Je ne suis pas en train de dire que de rechercher à avoir des promotions, c'est mal. Pas du tout, le sport, c'est pas mal non plus. Avoir des voitures, c'est pas mal. Le problème, c'est quand ces choses-là deviennent si essentielles à notre plaisir que nous leur réservons une place qui devrait être à Dieu seul dans nos vies. Frères et sœurs, pourquoi on hésite à se donner entièrement à Dieu? Pourquoi? Pourquoi on attend? Pourquoi attendre un jour de plus? Pourquoi attendre une année de plus? Peu importe ce que tu as vécu cette année, pourquoi aujourd'hui, ce ne serait pas le premier jour où tu serais enfermé dans un placard pour dire « Seigneur, c'est bon, je te donne toute ma vie. Je vais arrêter d'être un hypocrite, je vais arrêter que tu aies juste 50%, je vais arrêter que je t'honore à l'église, je ne t'honore pas à la maison, je vais arrêter ça, Seigneur. Je veux te donner toute ma vie parce que tu mérites toute ma vie. » Frères et sœurs, il est temps que ça cesse. Puis je sais que les paroles que je vais dire peut-être vont paraître dures. Mais Dieu sait que ce qui me motive en ce moment, c'est son amour pour vous qui brûle dans mon cœur et qui me force ou qui m'amène à dire ces paroles-là. Mes frères et sœurs, c'est assez d'avoir un pied d'un côté, puis c'est assez d'avoir un pied de l'autre. Comme a dit Élie, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Jusqu'à quand on va avoir un pied dans le monde puis un pied dans l'église? Jusqu'à quand on va faire ça, frères et sœurs? C'est assez de donner la moitié de ce qu'on est à Dieu. C'est assez de venir à l'église le dimanche matin, mais de vivre dans le monde toute la semaine. C'est assez de partager notre cœur entre Dieu et la pornographie ou entre Dieu et le travail. C'est assez. C'est assez, frères et sœurs. Il faut être patient. Un pasteur doit être patient. Vous devez tous être patient avec nos enfants, avec tout le monde. On doit être patient. Mais à un moment donné, vient le temps de dire que c'est assez. C'est assez. C'est assez. C'est ce que Dieu nous invite à faire ce matin, à chacun de nous, à moi le premier, à lui offrir la totalité de nos cœurs et de nos vies. Arrêtons de passer de un à l'autre. Si on croit que Jésus-Christ, c'est le trésor le plus satisfaisant de nos cœurs, bien, donnons-lui toute notre vie. Puis si on croit que Jésus-Christ, ce n'est pas le plus grand trésor de nos cœurs, bien, buvons et mangeons et demain, on va mourir. Mais arrêtons d'être un pied dans un puis un pied dans l'autre. Oubliez, frères et sœurs, toutes vos résolutions si cette résolution-là n'est pas faite avant, celle de vous donner entièrement à Dieu. Comment faire pour avoir la motivation ou le désir de m'offrir à Dieu au complet? Bon, on peut faire ce que Dieu lui-même fait dans Exode, c'est-à-dire de présenter comment il est le Dieu tout-puissant, créateur et sauveur, puis de méditer ça juste à temps que notre cœur soit ébloui, ou on peut faire comme Paul va faire dans Romains 12, c'est-à-dire... Il va inviter les lecteurs à méditer sur les vérités qu'on voit dans Romains 1 à 11. C'est écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » C'est quoi la motivation que Paul donne? Il dit « Donc, qui relie les versets chapitre 1 à 11, c'est-à-dire tout l'évangile du Christ manifesté dans le fait que Christ nous a justifiés, pardonnés, adoptés, toutes ces vérités-là, Paul les résume par les compassions de Dieu. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Peut-être la meilleure chose pour toi tantôt et pour mon âme, c'est qu'on aille tantôt justement tout seul, qu'on se sépare de tout le reste, puis que tu médites et lis les versets, les chapitres 1 à 11 de Romains, sans arrêt, en méditant, puis en priant, puis en méditant, puis en priant, jusqu'au moment où que ton cœur régénéré va être ébloui devant Christ, va être ébloui devant son amour, va être ébloui devant sa majesté, qui va faire que tu ne peux rien faire d'autre que dire « Prends ma vie au total, prends ma vie au total ». Juste à temps que tu sois bouleversé par l'amour qu'il y a pour toi. Et là, c'est sûr, par exemple, que ça va juste marcher avec ceux qui sont vraiment chrétiens. Plus le nouveau cœur que Dieu a donné à ses enfants. Vous voulez savoir le secret, un autre secret de la sanctification? Je l'ai dit un peu la dernière fois. Tu vois Christ de plus en plus clair, ton amour pour lui va grandir de plus en plus en pureté. C'est comme ça que les chrétiens, leur nouvelle nature, elle est faite. C'est sûr qu'un non-chrétien ou quelqu'un qui se pense chrétien et qui ne l'est pas, plus il apprend sur son Dieu, plus il va haïr son Dieu. Mais un vrai chrétien, plus il en apprend sur son Dieu et plus il voit clairement qui qu'il est, plus son amour pour lui va grandir. Donc peut-être la meilleure chose pour toi, c'est d'aller te plonger dans ces chapitres-là jusqu'à temps que tu t'offres à Dieu comme un sacrifice vivant. Pour terminer, je vais citer un missionnaire puis je vais lire un verset. Le missionnaire s'appelle Paul Washer. Un missionnaire et influent prédicateur de notre siècle. Les plus jeunes, surtout, écoutez, soyez attentifs. Je n'ai jamais regretté quoi que ce soit que j'ai fait dans le nom de Christ ou quoi que ce soit que j'ai abandonné pour lui. Mais je regrette ce que j'ai gardé. Je suis content quand j'étais jeune, j'ai utilisé ma force pour lui, mais maintenant, j'aurais juste souhaité d'en donner encore plus. Frères et sœurs, il y a seulement un Dieu. Puis ce Dieu-là nous a créés dans sa grâce, bien plus il nous a sauvés, puis rien n'est comparable à lui. La création, l'histoire de l'Église puis de la Bible lui rendent le témoignage qu'il n'y a rien de plus satisfaisant pour notre âme que de prendre notre joie en lui puis de trouver notre plaisir dans l'amour qu'il y a pour nous puis de l'aimer de tout notre cœur en retour. Frères et sœurs, poursuivons ensemble et personnellement cette année la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et offrons-nous à lui. Je termine avec deux derniers versets qu'on trouve dans l'épître de l'apôtre Jean. Dans sa première épître, à la fin, ça finit comme ça. « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Que Dieu vous remplisse de lui et vous bénisse abondamment en Christ, frères et sœurs. »